France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec à nos côtés ce soir un homme qui est devenu économiste parce qu'il voulait comprendre comment fonctionne le monde. Au début, ce qui l'intéressait, c'était les mathématiques. Et puis Daniel Cohen est devenu l'un des économistes les plus écoutés, ici et ailleurs. Lui, le spécialiste de la dette souveraine, distille ses conseils aux quatre coins de la planète. Et surtout, il enseigne aux étudiants de Normale Sup, la crème de la crème. Il n'oublie pas le grand public pour lequel il publie des livres, le dernier en date. Chez Albin Michel s'intitule « Il faut dire que les temps ont changé », chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète. C'est une réflexion sur l'évolution des 50 dernières années et ce n'est pas fini, comme on le verra. Avec lui, on reviendra sur l'actualité de la semaine, sur cette valse hésitation, sur le prélèvement à la source et plus globalement sur les choix économiques et sociaux d'Emmanuel Macron. On parlera aussi d'un anniversaire, celui de la crise financière. C'était il y a 10 ans, tout juste. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menahem et réalisée par Marie-Annie Crimbaud, un reportage sur les conséquences de l'ubérisation du secteur des transports avec le salon des chauffeurs VTC qui s'est tenu cette semaine à Paris. Et les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Ce soir, du théâtre pour redonner confiance aux chômeurs. Ils sortent de cette expérience transformée et trouvent beaucoup plus facilement du travail. À 19h20 au téléphone sonne, question sur notre modèle économique à la veille de la journée mondiale du climat. Faut-il en changer pour sauver la planète? On en débattra avec Laurence Tubiana, l'ancienne négociatrice en chef lors de la COP21. Et avec vous tous, bien sûr, au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Daniel Cohen.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter et merci d'être avec nous. À l'issue d'une semaine où on a senti Emmanuel Macron moins sûr que d'habitude, moins sûr de lui, on l'a vu hésiter, notamment sur la question des impôts. On y reviendra tout à l'heure et votre éclairage sera précieux. Mais d'abord, un mot évidemment de votre livre qui fait sans doute partie de l'explication pour nous en France, mais pas seulement en France. Si le président qu'on a connu si confiance met à douter, est-ce que c'est possible parce que les temps ont changé et que nous sommes donc en train de vivre une mutation qui inquiète, pour reprendre votre titre?
Oui, je crois que c'est absolument évident. On est en fait en train de comprendre que ce qu'on a très longtemps appelé la société post-industrielle, qui ne veut rien dire comme qualification puisqu'elle se contente d'expliquer qu'on n'est plus dans la société industrielle, on est en train de comprendre qu'elle a un nom. C'est la société numérique, on pourrait l'appeler la société algorithmique, c'est-à-dire c'est une société qui attend de nous qu'on entre dans la matrice, qu'on soit des informations qui puissent être traitées par des intelligences artificielles, sans qu'on sache aussi très bien ce que sera notre rôle propre comme humain d'un côté ou de l'autre de cette chaîne de valeur, et que ça crée des incertitudes effrayantes, à la fois évidemment pour les travailleurs. Est-ce que je vais avoir un emploi? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que d'être qualifié dans un monde où tout change? Mais aussi comme humain, c'est-à-dire, est-ce que dans cette société où les algorithmes nous surveillent, il y a une part d'intimité? Est-ce que j'y ai droit? Est-ce qu'il y a une part d'humanité au recoin de moi quand je suis à la maison et que j'essaye de me divertir? Bref, toutes ces questions sont totalement explosives. Et on attend des gouvernements qu'ils aient une vision de ça, qu'ils aient une vision de ce que doit être l'intelligence artificielle au service des humains, cette société algorithmique. Il y a beaucoup de choses évidemment qui viennent à l'esprit, mais ce Parcoursup qui a remplacé APB, en fait on a compris seulement progressivement, mais ça a été quand même un coup de massue, que les étudiants allaient être classés par des algorithmes, parce que tout simplement les enseignants ne pouvaient pas choisir parmi 30 000 postulants, et qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ces algorithmes. Donc ça fait partie des choses dans lesquelles on a besoin d'une explication. Et pour faire la boucle avec ce que vous me disiez d'Emmanuel Macron, il vient avec, au fond, un logiciel intellectuel, si je puis dire, qui est quelque chose qui n'est pas forcément en phase avec ces questions. Il a l'idée qu'il faut revaloriser le travail. C'est très bien, mais travailler plus pour gagner plus, c'était déjà le slogan de Sarkozy, c'était déjà le slogan de la révolution conservatrice des années 80. On a plus envie de savoir quel type de travail. On sait aussi que l'intelligence artificielle peut nous entraîner dans une voie qu'on ne veut pas, où des algorithmes, des logiciels prendront la place des humains. Mais comment faire pour combattre ça? Mais il faut que l'éducation, que les hôpitaux, que les systèmes de formation soient dotés des moyens de doter les étudiants qui vont sur le marché du travail de ce qui leur permettra de réinventer leur métier. Et on ne voit pas ça non plus se dessiner. Le rapport sur l'intelligence artificielle de Cédric Villani disait « Notre recherche est trop pauvre pour faire face aux défis que les grands géants, les GAFA, etc. Nous lancent. Il faut des ressources pour ça. » Or, voilà, ce gouvernement, comme les autres avant, est constamment à chercher à réduire les dépenses parce qu'il a un problème budgétaire. Et donc, ce faisant, il a beaucoup de mal à dessiner des perspectives d'avenir. Donc voilà pour aller
vite. C'est ce que vous disiez dans l'Obs en juin dernier. Vous parliez de la boussole perdue du macronisme.
Oui, parce que le macronisme, c'était donc la fameuse promesse du en même temps, c'est-à-dire je suis à la fois, on va dire, conscient des efforts d'ajustement qui doivent être faits, et en même temps, je sais que les populations, et certainement les plus vulnérables, ont du mal à s'ajuster à cette transformation. Donc, par exemple, dans son plan, dans son programme électoral, il y avait beaucoup d'économies d'impôts qu'il a d'ailleurs beaucoup de mal à financer, mais il y avait un grand plan compétences de 15 milliards qui avaient été budgétés par ses propres économistes pour aller chercher les gens qui sont perdus pour le marché de l'emploi, qui sont en solitude sociale avancée, et leur apprendre ce qui est nécessaire, pas simplement l'anglais ou l'informatique, mais tout simplement leur donner les moyens de revenir sur le marché du travail. Or, ce plan compétences, que je sache, il n'a pas démarré, ça va faire déjà un an et demi avant qu'il démarre, ça sera peut-être 2 ans. Il y a un sens des priorités qui a été perdu. Et je crois que les économistes qui ont soutenu Macron et qui se sont plaints ensuite.
Jean Pisani-Ferry,
bien entendu, qui s'est exprimé dans le journal du dimanche. Je crois qu'il a été le premier témoin de cette déception. Le en même temps a été perdu et au fond, c'est dommage parce que personne ne peut souhaiter que la France reperde encore 5 ans à chercher une boussole et peut-être à perdre le sens de ses propres priorités. Donc oui, je crois qu'il y a un problème. Mais si je devais le dire très simplement, il y a peut-être des malentendus idéologique au départ, dans le libéralisme de Macron. Il y a peut-être aussi, tout simplement, un opportunisme politique. On voit bien que le macronisme vire un peu à droite dans son propre électorat, et c'est peut-être ça qui est en train de se passer. Mais je crois plus simplement qu'il y a un problème budgétaire. Emmanuel Macron a annoncé beaucoup de baisses d'impôts. En fait, si on les met bout à bout, on sera peut-être à 25-30 milliards en ajoutant la fiscalité du capital qui a été allégée, l'impôt sur les sociétés, et puis la taxe d'habitation qui doit être supprimée, plus l'année prochaine, le basculement du CICE. Ça fait beaucoup d'argent, il ne l'a pas. Et donc, il se retrouve dans la situation qu'on commentait tout à l'heure avec vous, c'est-à-dire le sport, voilà, alors, on va enlever 6 000 emplois, je ne sais plus combien ont été dessinés.
1600,
pardon. Donc, 1600 emplois, alors que le sport pour une jeunesse qui a vraiment souvent besoin de trouver le sens du collectif, c'est absolument fondamental. Enfin, c'est un exemple parmi mille autres, mais qui est le témoignage d'une situation qui, je crois, n'a pas été maîtrisée. Au fond, Chirac avait déjà fait ça dans les années 2000. Je baisse les impôts d'abord et je vois ensuite, mais ça marche pas cette méthode. Parce que quand on baisse les impôts d'abord et qu'on voit ensuite, on est dans l'urgence du ensuite et finalement on fait des coups de rabot sans avoir le sens des priorités et on ne peut plus investir dans l'avenir comme on attendait que ce gouvernement le fasse. Bon, ça n'est pas perdu, peut-être qu'il va se passer beaucoup de choses, mais en tout cas, je crois que le diagnostic aujourd'hui, il est là, une déception par rapport à une promesse qui ne se matérialise pas.
Et on y reviendra bien sûr, mais on va passer comme tous les vendredis à l'actualité de la semaine. En son, avec ce mix qui a été mis en onde par Marie-Annick Rimbaud. Au programme donc cette semaine, la rentrée scolaire, de nouveaux ministres au gouvernement et cette valse hésitation sur le prélèvement à la source.
Et puis, monsieur, madame, mademoiselle...
Le président Macron a failli reculer.
J'étais déçu. Madame Macron, c'est plutôt quelqu'un qui est combatif, qui va de l'avant. Et c'était lui qui a donné l'impression de freiner un peu.
J'ai eu peur, moi. On doit faire les choses.
Cette semaine, ces marcheurs de la première heure n'ont pas reconnu Jupiter. Ils n'ont pas compris ses hésitations sur les impôts. Finalement, Édouard Philippe est venu les rassurer.
Je vous confirme, en effet, qu'au 1er janvier de l'année 2019, l'impôt sur le revenu sera prélevé à la source.
Voulez-vous laisser l'argent ici ?
Je ne crois pas, non. C'est l'argent de la France.
La France va donc faire sa révolution fiscale comme prévu. Et si certains continuent de protester, c'est parce qu'ici, ce sont les foyers fiscaux qui payent l'impôt sur le revenu et non les individus.
L'impôt à la source est une très mauvaise idée. Pourquoi avoir inventé cette diablerie ?
C'est qui ?
Je vais vous surprendre, mais pour une fois, je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon.
Geoffroy Roux-de-Bézieux, le patron du MEDEF.
L'employeur n'a pas à connaître les revenus du foyer fiscal de son employé.
Il en manque une.
Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille, disait Jacques Chirac, et cela s'est confirmé cette semaine. Alors que le président perdait 10 points dans les sondages, son monsieur patrimoine, Stéphane Bern, a menacé de démissionner.
Si ça ne marche pas, mais j'arrêterai.
Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste.
Si franchement, je ne sers à rien.
Oh ben non, Stéphane, dis pas ça.
Moi, je sais faire de la télé, je sais faire de la radio, je sais faire défendre le patrimoine.
À quelle famille appartient cet écu ?
Mais je suis pas fait pour la politique, visiblement.
Animateur radio-télé, pas fait pour la politique, ça ne vous rappelle rien ?
J'ai le cœur qui est triste. J'ai l'esprit libre. J'ai la conscience tranquille.
Qui pour remplacer Nicolas Hulot? Parmi les noms qui ont circulé cette semaine, celui de Daniel Cohn-Bendit qui a fini par se rendre à l'évidence après avoir parlé avec le président.
On a pesé le pour et le contre, qu'on se dit les choses cachent. Cette liberté, un ministre, il ne l'a pas.
Il va donc rester libre, Dany. Pas comme François de Rugy, pour qui la liberté de parole, c'est de l'histoire ancienne. Voilà ce qu'il disait à propos d'Emmanuel Macron lors de la primaire à gauche en 2017.
Je ne sais pas quel est son programme écologique. Quand il était ministre de l'économie, non seulement il n'allait pas dans le sens de l'écologie, mais il était plutôt sur l'ancien monde.
Et vous êtes ?
Remaniement à minima cette semaine, avec tout de même l'exfiltration de la ministre des Sports, Laura Flessel, qui aurait oublié de payer une partie de ses impôts, décidément. Quand ça veut pas, ça veut pas. Heureusement, il reste les enfants.
Comment ça va, les enfants ? Bien. Enchanté. Bonne rentrée. Merci.
Emmanuel Macron a reconnu devant les élèves que parfois, président, c'est compliqué, ça dépend des jours. Mais le chef de l'État était surtout venu pour se changer les idées.
Si j'étais un plat cuisiné, je serais la blanquette de veau.
Et vous laissez bouillir 2 heures de temps.
Si j'étais un objet, je serais sans doute un livre. Et si j'étais un sport, je serais le football.
À propos de football, les deux stars du PSG se sont illustrées de manière bien différente cette semaine. Mbappé pour un geste qui va lui coûter cher.
Si c'est à refaire, je le referai et je ne peux pas tolérer ce genre de geste.
Je me demande si c'est vraiment nécessaire, toute cette violence.
Neymar lui a fait le bonheur d'un petit supporter nîmois qui lui a offert son maillot. Zakaria n'est pas prêt de s'en remettre.
Neymar, c'est pour se dire merci beaucoup. Et regarde, j'ai le maillot de Paris, derrière il y a ton nom, j'ai tes crampons et j'espère qu'un jour je deviendrai comme toi, j'ai mon modèle. Merci beaucoup Neymar. Obrigado.
Allez, on termine en chanson car désormais il doit y avoir des chorales dans tous les établissements scolaires avec notamment au programme la Marseillaise. Et là, il faut bien dire qu'il y a du boulot.
Allons ensemble de la enfants. Patrie. Ouais, c'est pareil, je la connais pas. Allons enfants de la patrie.
Le jour de gloire est arrivé.
Après, je sais pas.
De la patrie.
Patrie.
Abreuve nos sillons.
Voilà pour ce petit résumé de la semaine, totalement subjectif. On l'assume. Mise en onde signée Marie-Annick Rimbaud. Avec nous toujours l'économiste Daniel Cohen. Pourquoi une telle hésitation sur le prélèvement à la source, d'après vous, Daniel Cohen? La peur psychologique de ce que les gens voient une feuille de paie réduite?
Voilà, je crois que ça se ramène un peu à ça, la peur que les gens reprochent à Macron le fait qu'ils payent leurs impôts 3 mois plus tôt, quoi, en gros, et que donc ils aient l'impression que leur pouvoir d'achat a baissé, alors qu'en réalité, naturellement, puisque la fiscalité au bout du compte sera la même, il n'en est rien. Moi, je trouve cet exemple vraiment tragique, parce que ce prélèvement à la source, c'est une mesure à mes yeux, enfin, qui va totalement dans le sens du monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est un monde de plus grande précarité que jamais. Les revenus fluctuent beaucoup d'une année à une autre et il est impératif que l'on puisse payer ses impôts en temps et en heure à proportion de ce qu'on gagne. Je dis souvent que les deux moments les plus tragiques de l'existence, c'est quand vous perdez votre conjoint et quand vous perdez votre emploi. En tout cas, c'est ce que toutes les enquêtes statistiques nous disent et ce que le bon sens nous fait voir aussi. Ce sont les deux moments où le fisc vous matraque. Vous perdez votre conjoint, vous devez payer ses impôts alors qu'il n'est plus là. Vous perdez votre emploi, vous devez payer des impôts que vous n'avez sur la base de revenus que vous n'avez plus. Donc, si on veut accompagner, à défaut de les améliorer, ces transitions toujours dures entre un statut marital et un autre, d'emploi, de non-emploi, etc., il faut un impôt qui cesse d'être l'ennemi des gens, c'est-à-dire qui vient quand on peut plus payer, mais qui au contraire les accompagne. Bon, alors que Macron, qui est normalement comme ça le porte-drapeau de cet éloge de la modernité, recule, c'est quand même mauvais signe, et c'est pour ça que je crois que ça a beaucoup déçu les gens, parce qu'on ne s'attendait pas qu'il ait peur à ce point que les gens fassent une confusion entre l'impôt et les revenus.
En tout cas, ça a beaucoup étonné ses soutiens, et on les a entendus, parce que c'est
tout à fait le genre de choses dont on s'attendrait à ce qu'il les porte, accompagner, à défaut de le combattre, faire que l'État soit l'ami et pas l'ennemi des situations glorieuses ou difficiles. Enfin, c'est pour moi absolument aussi simple que ça. Heureusement que ça n'a pas été remis en cause, parce que la France est le dernier pays qui est dans cette situation. Du coup, on a un rapport à l'impôt qui est toujours de déni, ça va venir plus tard, du coup on vous fait des niches. Enfin, cette complexité du système fiscal dont on dit qu'il aurait empêché de faire le prélèvement à la source, il est aussi une conséquence du fait qu'on joue constamment avec ses impôts. On sait combien on paye, à la limite, peut-être que ça fera une plateforme anti-impôt. Bon, ben, très bien, c'est un risque à courir, mais peut-être qu'au contraire, ça réconciliera les Français avec les impôts, parce que les impôts, on les paye quand on gagne de l'argent à proportion de ce qu'on doit payer. C'est à peu près aussi simple que ça.
Alors, tout à l'heure, vous l'avez dit, les choses ne sont pas aussi simples que ça, justement, pour Emmanuel Macron. Il a dû reporter certaines baisses de charges promises aux chefs d'entreprise. Il y a des prestations sociales dont l'augmentation sera moins importante que prévu. Ça veut dire quoi? Il a mangé son pain blanc déjà au bout d'un an et demi?
Je pense fondamentalement que ça se ramène à ça. C'est-à-dire que les baisses d'impôts qu'il a voulu mettre en œuvre, en réalité, l'obligent à faire des baisses de dépenses qu'il n'arrive pas à faire. Parce que en réalité, c'est très compliqué de baisser les dépenses en France, les dépenses sociales, lesquelles? Les retraités. Mais il l'a déjà fait avec son transfert de charges, avec le fameux CSG qui aurait permis de revaloriser le travail de ceux qui travaillent. Mais on voit aussi que ce faisant, revenir voir les CSG pour baisser vraiment les dépenses, parce que ça n'est pas une baisse de dépenses, le transfert de CSG, bah, ça devient très compliqué après. Donc là, je pense qu'il y a tout simplement déjà une erreur tactique. Et puis ensuite, baisser quoi? L'éducation, la santé, mais jamais l'éducation n'a eu besoin d'autant de ressources. L'enseignement supérieur, c'est l'universitaire qui parle, coûte 13 milliards. Comment voulez-vous qu'avec 13 milliards, on arrive à préparer la jeunesse de France aux défis de demain? Il faut évidemment plus de ressources, il faut augmenter les places en BTS, en IUT pour les bacs pro. Enfin, on sait tout ce qu'il faut faire. Donc il y a certainement des économies à faire. Mais simplement, c'est un temps beaucoup plus long. Et ce temps long, il ne l'a pas. Donc on est dans cette situation tout à fait explosive d'un président qui n'arrive pas à impulser des mesures d'avenir parce qu'il n'en a tout simplement pas les moyens. Il a mangé son pain blanc, comme vous le disiez très justement.
On attend le plan pauvreté la semaine prochaine. Quelles devraient être les priorités d'un tel plan? Et puis, première question, est-ce qu'on dépense vraiment un pognon de dingue pour les aides sociales?
Mais justement, la question et la réponse est dans la question. Le taux de non-recours des titulaires du RSA est de plus d'un tiers. Ça veut dire qu'il y a un tiers de Français
qui sont
éligibles au RSA, exactement, qui pourraient y prétendre, qui ne le font pas. Donc, une mesure juste, et on peut rentrer dans les détails techniques évidemment, c'est celle qui va permettre de baisser ce taux de non-recours, d'augmenter ce taux de recours. Le RSA coûte un peu plus de 10 milliards, il y a 30% de gens qui ne le touchent pas, donc une mesure juste, ça va être de dépenser simplement 3 milliards de plus. Donc 3 milliards de plus, il ne les a pas, sachant que par ailleurs, il veut reprendre les mesures de désocialisation des heures supplémentaires, qui va lui recoûter 3 milliards. Donc là, on dépense un pognon dingue. Non, on dépense insuffisamment au regard de la loi qu'on a nous-mêmes votée. Donc moi, j'attends des mesures, voilà, très simplement, qui vont permettre, comme pour le prélèvement à la source, de suivre les personnes dans leur situation réelle et de leur donner les droits qu'ils méritent. Alors, je crois que c'est ça l'enjeu du plan pauvreté. Je m'en réjouis, j'attends de voir dans le détail, mais au bout du compte, si c'est bien fait, ça coûtera encore plus que ça ne coûte aujourd'hui. C'est-à-dire, on se rapprochera d'une certaine décence par rapport à ce que les gens sont en droit de gagner.
Et on sera fixé jeudi prochain. On va passer maintenant au reportage de la semaine, et je suis sûre qu'il va vous intéresser, parce que cette semaine s'est tenu à Paris le salon des chauffeurs VTC, un secteur qui a connu de fortes tensions du fait de la concurrence avec les chauffeurs de taxi. Aujourd'hui, les choses semblent plus apaisées, mais du côté des chauffeurs VTC, le quotidien n'est pas toujours rose, même si Uber s'est engagé à améliorer leurs conditions de travail. C'est un reportage de Mathilde Dehimi.
Ça y est, c'est la fin de la journée.
Oui, c'est la fin de la journée après 10 heures de travail. Et moi, j'ai des collègues qui travaillent beaucoup plus, 12 à 14 heures par jour, pour compléter la baisse des prix de Uber.
Karim travaille depuis 5 ans comme chauffeur VTC. Il est inscrit sur toutes les plateformes.
Au début, je gagnais super bien ma vie jusqu'en 2015. Et Uber nous a vendu du rêve et tout. Et à partir de 2015, Uber il a baissé les prix. Là, c'était devenu un cauchemar.
Vous gagnez combien sur des courses? Alors en ce moment, en plus, ça gagne plus.
On gagne plus, c'est un gros mot. On est passé de 4 euros de l'heure à 5 euros de l'heure. Parce qu'ils disent apparemment qu'il y a moins de chauffeurs, mais moi, sur le terrain, je ne le sens pas. En faisant 65 heures par semaine, pour gagner 1400 euros par mois. Si tout va bien, on n'a pas d'amende, on n'a pas d'accident. Par contre, moi, je suis arrivé à un point où je ne paye plus mes charges, je déclare rien. Entre nourrir ma famille et payer mes charges, je préfère nourrir ma famille. C'est un système, c'est un cercle infernal. Vous savez ce que tu veux, madame? Je veux fixer mes tarifs. Je suis responsable de tout et je décide de rien. Ils décident tout à ma place.
10% des chauffeurs se sont affranchis des plateformes de mise en relation comme Uber.
permettez, j'envoie juste en fait deux réservations. Salut Sofiane, comment ça va? Argenteuil à 18h30 pour aller à Orly.
Ouais. Ils s'organisent entre eux par messagerie WhatsApp, fixent leurs tarifs, travaillent sur réservation en classe affaires pour de grandes sociétés.
On arrive là sur Orly, est-ce qu'il y a encore des VTC clandestins comme on en a connu ces dernières années?
Vous allez voir, on va rentrer dans le parking pro. Il y a des VTC, il y a des voitures noires qui n'ont pas de macarons, qui n'ont pas de carte professionnelle. Et malgré ça, ils travaillent avec les plateformes. Il n'y a aucun contrôle en fait.
7000 chauffeurs n'ont pas vu leur autorisation renouvelée depuis la loi de janvier.
Regardez, ils travaillent avec des claquettes.
Mais Samir demande encore plus de régulation.
Des plateformes en exerçant des tarifs bas, il n'y a personne qui en profite. Ils sont accaparés en fait de la clientèle des taxis. Ils ne rémunèrent pas bien les VTC. Ça veut dire que le taxi n'est plus rentable aujourd'hui parce qu'il y a moins de travail. Le VTC qui travaille avec les applications n'est pas rentable parce que c'est des tarifs à perte. Donc voilà, personne ne gagne. Même l'État ne gagne pas. Les plateformes en fait ne payent pas d'impôts. La plupart, ils font de l'optimisation fiscale et empêchent les autres de payer des impôts en exerçant des tarifs trop bas.
Samir fait partie du syndicat des chauffeurs privés, VTC. Son secrétaire général, Sayab Haroun, pousse aujourd'hui plus loin sa lutte contre l'ubérisation. Il sera avec 10 chauffeurs devant les prud'hommes en décembre.
L'idée, c'est de reconnaître que la situation actuelle, c'est du salariat, sauf qu'on prépare les chauffeurs à être indépendants, patrons, gérants eux-mêmes, mais ils assument toutes les conséquences du salariat et du patronat, sans en avoir les avantages finalement. Donc l'idée, c'est d'attaquer ça en justice, le faire reconnaître, et ensuite commencer à légiférer là-dessus, quoi. Et lorsqu'on dit « il faut réguler », on nous dit « mais non, vous êtes dingue, il faut libéraliser ». Sauf que là, le libéralisme à outrance, on vient de le voir, c'est incohérent.
Devant la défiance de ses chauffeurs, Uber s'est engagé sur une série de mesures. Pas plus de 10 heures de conduite avec des clients à bord, protection sociale, plus de courses intéressantes. Et pour ce faire, le nombre d'heures de pointe majorées a augmenté, ce qui n'a pas échappé à Maurice, qui utilise depuis 5 ans Uber plusieurs fois par semaine.
Les premières années Uber, on était sur des tarifs vraiment défiant toute concurrence. Aujourd'hui, ça s'est normalisé. C'est vrai que les tarifs se sont alignés sur ce qu'étaient les tarifs taxi. Et surtout, on subit de plus en plus les heures de pointe avec des majorations qui sont 2x2, x3, x4, plus on rentre tard le soir, ça commence à devenir bien plus cher et on commence à réfléchir à des alternatives moins coûteuses.
Les taxis qui s'en sortent mieux depuis quelques mois, disent-ils, après avoir dépoussiéré leur profession et s'être alignés sur les standards d'accueil des VTC.
Reportage signé Mathilde Dehimi, Daniel Cohen, l'ubérisation de la société, il en est largement question dans votre livre. On entendait ce chauffeur qui disait « je suis responsable de tout, je décide de rien ». Aujourd'hui, vous le dites dans votre livre, on externalise à tout va, on a recours à la sous-traitance, on précarise, on détruit l'entreprise.
Oui, c'est ça, l'ubérisation, Uber, c'est exactement le symbole de ce qu'on peut appeler cette société post-industrielle, au sens où elle s'est contentée en quelque sorte de détruire les organisations industrielles qui pouvaient exister auparavant pour les remplacer par ce rêve qu'avait énoncé un grand patron français d'entreprise sans usine et d'usine sans travailleurs, c'est-à-dire un monde où tout est externalisé, où plus rien n'est internalisé de contraintes sociales. Donc, voilà, Uber, une application, bon, géniale en un certain sens, qui s'appuie sur le GPS, etc., et qui vient tout simplement créer ce monde où on n'a aucun regard sur la situation, où on n'a aucune obligation à l'égard de la situation des gens, dont pourtant on détermine le destin, puisqu'on fixe les tarifs, etc. Et je crois que cette ubérisation, c'est ce qui explique que cette révolution numérique inquiète. C'est que jusqu'à présent, elle a surtout servi à détruire des collectifs, à externaliser les choses, à mettre les personnes en concurrence entre elles, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'organisation qui intègre, mais il n'y a plus que des mises en compétition de prestataires avec d'autres. Il faut sortir de ça. Parce que
ça favorise la montée des populismes.
Mais
c'est
bien
ce que
sûr,
vous dites
mais
dans votre,
bien
dans votre ouvrage. C'est quand même ça le risque. Hein.
Enfin, c'est même plus un risque. C'est-à-dire qu'on est dedans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le seul modèle social qu'on est capable de proposer, c'est la mise en concurrence généralisée, parce qu'on n'est jamais dans une entreprise qui est capable de vous prendre en charge, de vous donner de la formation professionnelle, de vous faire gravir des échelons, etc., et qui peut aussi vous protéger des aléas de la conjoncture, eh bien, effectivement, les classes populaires sont complètement démunies. Il faut quand même se souvenir, le livre commence comme ça, dans les années 50 et 60, être ouvrier, ça avait une force, une dignité. Il y avait des syndicats puissants, ils étaient craints. Quand ils faisaient grève, on faisait attention. Depuis 50 ans, ce monde a été détruit pour être remplacé par un autre qui n'en est même plus un de monde, qui n'est rien d'autre que une fabrique à créer de la solitude sociale. Donc, moi, je suis très, très inquiet par cette dérive-là. Maintenant, peut-être que le moment est venu de réagir. C'est-à-dire, on voit ce monde, on est en train, vraiment, je crois, d'en comprendre toutes les pathologies. Uber a été souvent requalifié par beaucoup de juridictions parce qu'on considère que les salariés sont dans un rapport de subordination à l'entreprise puisque c'est elle qui dicte les tarifs, par exemple, notamment. Donc, je crois que tout ça est en train de se reconstruire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit tourner le dos au progrès,
mais
bien sûr.
Mais il va falloir réguler.
Mais il va falloir...
Mais qui pour réguler tout ça? C'est voilà, pas la question.
Redonner, mais c'est... Dans le cas d'Uber en France, c'est très simple. Il faut, on peut, y a pas de, les gens vont pas prendre Uber en Chine ou en Corée. Donc c'est nous, c'est à nous de garder ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire des technologies qui permettent rapidement, voilà, de faire comprendre où se trouve un client, mais d'insister pour que les gens aient une existence sociale digne et donc Uber assume ses responsabilités par rapport à ses franchisés, pour le dire comme ça.
Le titre de votre livre, Daniel Cohen, il est directement inspiré de ça?
People are crazy and times are strange. I'm locked inside, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
Non. C'est Bob Dylan, mais pas cette chanson. Non, non, c'est la chanson, c'est Time They Are A-Changing. Alors, c'est peut-être celle-là, mais je la reconnais pas.
Peut-être
du coup.
Celle-là, mais elle est, non, c'est ouais. Peut-être pas la bonne, non, la bonne version.
Pardon, désolé, mais je reconnais pas
mais
la voix de Bob Dylan
dans ce que vous me.
Mais oui, c'est inspiré.
C'est pourtant, lui, me dit la régie.
Ah, alors désolé,
on va essayer
pardon,
d'éclaircir
régie,
toute
désolé,
cette affaire. La crise de 2008, Daniel Cohen, dans quelques jours, ça fera 10 ans tout juste, qu'elle a éclaté, cette crise. Est-ce qu'on en a tiré les leçons?
Donc effectivement, c'est le 15 septembre, donc dans une semaine, ça fera exactement 10 ans que la banque Lehman faisait faillite, entraînant une spirale de crise, qui fait d'ailleurs que dans les mois qui vont suivre la faillite de cette banque, la crise industrielle mondiale sera plus violente dans les 9 premiers mois qu'elle n'avait été en 1929, c'est dire la profondeur du choc. Alors, est-ce qu'on en a tiré les leçons? Oui, en un certain sens, c'est-à-dire que on a exigé des banques qu'elles arrêtent de spéculer avec l'argent des déposants. Enfin, aux États-Unis, notamment, on a voulu interdire aux banques de faire des opérations spéculatives sur fonds propres, comme on dit, c'est-à-dire en gros adossées aux ressources que les déposants mettent à leur disposition. Mais on sait aussi que Trump veut revenir sur ces dispositions, c'est-à-dire ouvrir la machine. Bon, mais en réalité, non, rien n'a véritablement changé. C'est-à-dire que la finance reste, dans une très grande mesure, même indépendamment des banques, pour tous ces fonds alternatifs, hors de la réglementation qui s'impose. Maintenant, le point qui me préoccupe le plus, pour dire le fond d'histoire, c'est que la crise des années 30, elle a provoqué cette montée des forces anti-système qui se sont traduites en Allemagne, notamment par l'élection d'Hitler. Sur le coup, on a cru, quand la crise a éclaté, que les autorités avaient finalement assez bien géré. La crise était très violente, on a eu l'élection d'Obama un petit peu après, mais indépendamment de ça, on a réagi un peu façon New Deal de Roosevelt, c'est-à-dire on a injecté beaucoup de liquidités dans le système, on a laissé un peu les déficits filer, on a sauver les grandes banques en difficulté parce qu'on n'avait pas envie d'une nouvelle panique. On a maintenu l'ordre international, c'est-à-dire la tentation protectionniste, elle a été évitée. Aujourd'hui, 10 ans après, on voit que le malaise, il est toujours là et que toutes les erreurs qu'on avait commises dans les années 30 et qu'on avait évité de commettre juste après la crise, on est en train, les unes après les autres, de les reprendre. On voit Trump, il veut remettre en question la coopération internationale. Or, la crise du système international, dans les années 30, avait joué un rôle considérable. Et pourquoi? Parce que les gens n'ont plus confiance, donc ils veulent revenir dans leur coquille, comme si ça suffisait à les protéger des déséquilibres du monde. Et du coup, je crois tout simplement qu'aujourd'hui, si une nouvelle crise devait éclater, on en aura plusieurs qui pourraient éclater, on n'aurait plus les moyens politiques d'y réagir comme on avait fait juste après 2008-2009.
Eh ben, ça fait peur.
Olá, do assim.
un peu s'offrir un petit chocolat.
Voodoo Game, Tata Fatigué, c'est le choix musical de Djoubaka. On peut même plus s'offrir un petit chocolat, Daniel Cohen, ça va plus du tout. J'aimerais qu'on dise un tout petit mot de votre parcours à vous. Hein, vous êtes né à Tunis il y a 65 ans, si je ne m'abuse.
Oula, fallait pas le dire.
Ouais. Père médecin, mère pharmacienne, vous n'avez pas été tenté par la santé? C'était les maths qui vous attiraient?
Non, en fait, mon père, alors que toute ma famille est médecin, pas seulement mon père et ma mère pharmacien, mais tous mes oncles, tous mes cousins sont médecins, et mon père... voulait absolument que j'échappe à ce milieu et il voulait que je fasse autre chose et donc voilà, j'ai fait autre chose.
Vous avez fait
il
des
était
maths.
Un bon garçon.
Vous avez fait des maths, parcours d'excellence, Normale Sup d'abord comme étudiant, aujourd'hui comme directeur du département d'économie de l'école normale supérieure, membre fondateur de l'école d'économie de Paris, auteur de très nombreux livres, un des plus célèbres c'est bien sûr Richesse du monde, pauvreté des nations. Dites-nous un petit peu comment vous êtes passé des maths à l'économie,
C'est assez simple. Je suis rentré à l'école normale dans les années 70, au moment où la crise était en train d'exploser. Donc, je voyais bien qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en train de se passer. C'était la crise pétrolière. Il y avait tous les dérèglements du monde. On sentait qu'on était dans une situation totalement explosive et je n'y comprenais absolument rien. Donc, j'ai suivi des cours d'économie qui étaient offerts à l'école normale et j'ai voulu aller plus loin. Donc, dans un premier temps, j'ai pensé que j'allais faire surtout de l'économie mathématique. C'est-à-dire que j'allais réussir à ménager la chèvre et le chou et faire un peu des deux. Et puis, non. Enfin, j'avais vraiment envie de comprendre le monde. Donc, j'ai passé la grecque de maths quand même, mais j'ai lâché les maths ensuite parce que je voulais faire ça. Mais bon.
Voilà, aujourd'hui vous êtes donc enseignant, vous êtes conseiller aussi auprès de plusieurs organismes, auprès de politiques de gauche, vous avez l'oreille des grands de ce monde, vous avez conseillé des dirigeants étrangers, des organisations internationales, des banques aussi, la Banque Lazare je crois. Alors un petit mot sur le rôle des économistes, parce qu'on leur prête un rôle important, chez les citoyens il y a un sentiment d'impuissance sur le thème, on ne peut rien changer, les politiques n'écoutent que les économistes et les financiers. Qu'est-ce que vous répondez
à ça ? Non, je peux les rassurer, les économistes ne sont pas écoutés, enfin les hommes politiques n'écoutent pas les économistes, il n'y a aucun économiste dans l'entourage de Emmanuel Macron, par exemple, enfin, c'est un petit peu dur à dire. Non, les économistes sont utilisés par les hommes politiques au service d'un discours quand ça les arrange. Il y a des économistes de gauche, il y a des économistes de droite, donc l'un va trouver son économiste qui va lui expliquer qu'il faut relancer les dépenses publiques et l'autre va trouver son économiste de droite qui va expliquer qu'il faut baisser les impôts à tout prix. Non, l'économie n'est pas aussi... L'économie est évidemment importante, c'est l'air qu'on respire en un certain sens, mais l'économiste n'a pas cette précision technique qui le rend utile auprès des gouvernements. L'économiste, il est bon pour comprendre une situation et surtout si cette situation est passée. Je pense que les économistes aujourd'hui comprennent bien la crise des années 30. Ils comprennent bien la crise des années 70. Ils comprennent bien maintenant, avec le recul, la crise de Lehman et ce qui s'en est suivi. Mais ici et maintenant, vous me demandez de dire, par exemple, est-ce que ce que fait Trump avec le protectionnisme est dangereux ou pas ?
Mais vous allez me dire, par exemple, il faut réduire la dépense publique.
Aucun économiste ne vous dira ça. Les économistes peuvent...
Il faut limiter les déficits, en tout cas. Ça, c'est au niveau européen, en tout cas, c'est ce qu'on entend.
Mais c'est pas les économistes qui le disent. C'est pas les économistes qui le disent. Keynes, qui est un des plus grands économistes du XXe siècle, a expliqué qu'il fallait laisser filer les déficits. Alors, si je vous dis, il faut laisser toujours filer les déficits, sans être économiste, vous êtes capable de me dire, mais ça va augmenter la dette, et il y a un moment où la dette deviendra trop importante. Donc, oui, ça, c'est de l'arithmétique. Non, je pense que les économistes sont utiles pour porter un jugement sur une situation passée, pour interpréter notre passé immédiat. Quand il s'agit de se projeter dans l'avenir, on ne sait pas. On est obligé de faire un diagnostic, chacun avec sa sensibilité, ses instruments théoriques. Et je pense que le piège pour les économistes, c'est de jouer les oracles. C'est de dire, moi je sais que... Non, ils ne savent pas. Mais par contre, ils ont chacun des instruments à faire valoir, ils ont des données à faire valoir, et donc il faut qu'ils les mettent sur la table. Mon collègue Thomas Piketty a fait une enquête incroyable sur les inégalités. Je ne suis pas sûr qu'il y ait convergence des économies sur les causes des inégalités, mais le fait lui-même, il est totalement parlant. On peut le mettre sur la table, de même sur le réchauffement climatique. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Il y a des données brutes qu'on connaît, il faut les mettre sur la table. Donc, non, les économistes ne sont pas les conseillers des princes. Très rarement, que je sache, il y en a presque pas eu, à part Raymond Barre lui-même, il y a très longtemps. Les économistes doivent mettre sur la table pour les citoyens les données dont ils disposent. Je crois que
quand il y a consensus, c'est toujours sur des choses passées, et puis voilà, que les citoyens s'en emparent. Mais non, l'idée que ce serait les prêtres, les nouveaux gourous, non, c'est pas ça. Non, je crois pas. Mais l'économie, oui, par contre, et l'air qu'on respire, ça c'est certain. C'est le paradoxe de la situation. C'est l'air qu'on respire, mais on ne le comprend pas bien. Mais il faut vivre avec cette incertitude, malheureusement.
Une question avec une réponse très courte, parce qu'on va passer aux bonnes ondes de Sandrine Houdin. À propos des GAFA, parce que les dirigeants européens sont en train d'en discuter, les bénéfices sont colossaux. On l'a encore vu cette semaine avec Google qui a fêté ses 20 ans. Est-ce qu'il faut réguler, taxer les GAFA?
Ah bah, il faut évidemment, enfin là, il a évidemment les taxer. Il n'y a absolument aucune raison de leur permettre de se soustraire à l'impôt alors qu'ils jouent un rôle absolument croissant. Maintenant, le phénomène massif de la période, c'est que il n'y a pas que les GAFA. Dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs, par contre, on voit une tendance à ce qu'on appelle le gagnant l'emporte sur les autres. C'est-à-dire qu'il y a une formidable concentration qui s'observe dans tous les secteurs. Par exemple, aux États-Unis, les 100 plus grandes entreprises faisaient un tiers de la production il y a 30 ans. Aujourd'hui, elles en font plus de la moitié. Donc, il y a une tendance à la concentration parce que celui qui a le plus de clients en ligne, c'est aussi celui qui peut s'imposer. Donc là, oui, il faut faire valoir des arguments qui relèvent de la politique de la concurrence pour être sûr que ces gros ne deviennent pas trop gros.
Voilà, surtout qu'il y a des gens, dans le même temps, qui sont dans le besoin et qui ont du mal à trouver du travail. C'est ce qu'on va voir avec les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Ce soir, le théâtre au secours des chômeurs. Se mettre en scène pourrait être peut-être très utile lors d'un entretien d'embauche. Dans Lyon, le Conseil Général a lancé une expérience. Eh bien, ses résultats sont bluffants.
Oui, parce que le point commun entre un acteur et un chômeur, c'est le trac. Quand on est hors-circuit depuis longtemps, une femme qui a élevé ses enfants par exemple, quand on a subi un licenciement, qu'on essuie échec sur échec depuis des mois, forcément on perd confiance, on arrive complètement noué à l'entretien d'embauche et ça, évidemment, le manque d'assurance, l'employeur le sent.
D'où le théâtre pour retrouver confiance, ou en tout cas pour faire semblant.
Exactement, et vous allez voir ce que réussit à faire la comédienne Myriam Roustan, rien qu'avec de petits jeux de rôle.
On part avec vous à Sens, dans Lyon, au Greta, le centre de formation où ont lieu ces séances. Les apprentis comédiens y sont employés, envoyés par Pôle emploi et la mission locale.
Dans le rôle de la DRH au téléphone, Myriam Roustan dans celui du candidat Dominique.
Oui, alors qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? De la choucroute. Attends, je te quitte parce qu'il y a quelqu'un qui vient encore me faire chier dans mon bureau. Oui, c'est pourquoi, bonjour.
Bonjour madame, je m'appelle Dominique Pinault, j'avais pris rendez-vous auprès de votre secrétariat.
Rendez-vous avec qui?
Xavier Beaufort.
Vous remarquerez que je ne m'appelle pas monsieur Xavier Beaufort.
Oui, madame, monsieur Xavier Beaufort.
Ben, vous auriez dû dire monsieur Xavier est-il là? Vous voyez ce que je veux dire? Recommence.
Il recommencera 10 fois si nécessaire. Myriam ne lâche rien.
Vous avez quel âge?
J'ai 59 ans.
Oh là!
Problème?
C'est pas moi qui ai un problème, c'est vous.
Un par un, ils passeront tous à la moulinette.
Bonjour madame.
Ah non, non. Tu attends qu'elle te reçoive. Tu le sais ça en plus. Oui, c'est pourquoi?
Je sors un stage des conducteurs d'autobus.
Je peux pas vous embaucher parce que je ne travaille pas avec les noirs.
Vous pouvez pas?
Non. Bon, écoutez monsieur, excusez-moi, mais j'ai autre chose à faire. Hein. Bon,
c'est dommage alors.
Non, il faut pas que tu dises ça. Il faut que tu réagisses. Oui. Madame, je ne suis pas ici pour parler de mes origines. Oui. Faut s'affirmer. J'aime beaucoup les noirs.
C'est gentil.
La méthode Roustan.
Moi tout de suite je rentre dans l'art. Tout le monde a peur. Du moment où j'ai jamais fait de théâtre de ma vie, mais moi je m'en fous, je m'en tape. Je leur apprends souvent à bien s'exprimer aussi. Non. Présentez-vous. Eh ben, je m'appelle Myriam Roustan. Non, non, s'il vous plaît, parlez d'une façon un peu plus élégante. Exemple, je suis agent d'entretien. Moi, je t'embauche, je suis pas agent d'entretien. Je veux un agent d'entretien. Mais je serais capable de les foutre dehors et de m'énerver. Hein. Alors, vas-y, Ingrid.
Bonjour, monsieur.
Pourquoi?
Je viens pour le poste de danseuse orientale.
Bonjour, monsieur. Bonjour. On a vu dans le journal que vous cherchiez des danseuses orientales.
Je suis déjà sur le poste.
On s'en fout, qui t'es, toi?
C'est Ingrid, elle a 40 ans.
Elle est dure, mais elle est super géniale. J'ai passé un entretien pour un stage et je suis arrivée, j'étais plus sûre de moi et tout, impeccable pour pouvoir décrocher le stage que j'ai décroché. Ça m'a apporté de la confiance en moi.
Natacha, 45 ans.
Je n'osais pas me lever, je n'osais pas parler et c'est vrai que maintenant, j'y vais avec plaisir. On va dire sans la timidité.
Lucas, le plus jeune de la troupe.
Avant, je baissais les yeux, je n'arrivais pas à regarder dans les yeux. Mais maintenant, j'y arrive beaucoup plus facilement parce qu'elle est crue, donc...
Ça veut dire quoi, elle est crue?
Elle ne nous laisse pas, en fait. Si elle voit qu'on est timide, elle ne nous lâchera pas.
Redresse-toi.
Je suis redressé, là.
Prends ton ventre.
Je peux pas, sinon je vais avoir mal au ventre.
Tu ne peux pas rentrer ton ventre, sinon elle a mal au ventre. Eh ben, tu respires plus. Moi, je suis très contente, c'est quand ils réussissent, quoi. Au bout d'un mois, t'arrives ici, t'as l'impression que t'es une merde, excusez-moi l'expression. Et puis quand tu sors, j'en ai vu, plus jamais ils sont timides. Puis surtout qu'ils ne se laissent pas faire par un employeur, je le dis. Quand je lui dis, je prends pas de noir dans mon établissement, c'est pour les tester. Il y en a une qui m'a marqué beaucoup. Une fille qui s'habillait mal, elle voulait être dans la vente. Je lui dis, mais tu pourras jamais être dans la vente, t'as vu la touche que t'as? Elle me dit, oh, tu me parles mal. Non. Le lendemain, elle s'est pointée. elle était sur son 31. Elle me dit, t'as vu Myriam? Et c'était merveilleux, j'en ai encore des frissons, tiens. Allez, hop, on y va. Ne pousse pas ta chaise comme ça, parce que tu pousses ta chaise comme ça devant un patron, ça la fout mal. Allez, présentez-vous.
Je m'appelle Mohamed, je suis d'origine guinéenne.
Ne dis pas bé, ça fait un peu mouton. Est-ce que tu aimes faire la cuisine?
J'aime bien cuisiner.
J'aime. Fatih, tu veux dire quelque chose? Articule.
J'ai fait du vélo.
Je voudrais que ta voix soit plus tonique. J'ai fait du vélo.
J'ai fait du vélo.
Bien, on l'applaudit. Génial, hein?
Mohamed, le Guinéen.
Ça m'a apporté beaucoup. Comme on n'est pas de ce pays, on s'est dit qu'on n'est pas capable d'arriver. Elle nous valorise. Parce que dès mes premières demandes de stage, ça marchait. Alors que dans le temps, on me disait, on vous recontacte, mais jamais de suite.
Ça me tient à cœur parce que des réfugiés qui ont subi des atrocités, qui ont traversé les mers et tout, on ne peut que les aider.
C'est le cas de Fatih, il a fui le Soudan il y a 5 ans.
Comme tu parles mal français, tu ne trouves pas de travail facile. C'est pour ça qu'on est là. Et Myriam, elle est géniale.
Eh bien, vous savez, je vais vous embaucher. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez du répondant.
Parce que j'étais à bonne école, madame.
Avec qui?
Avec madame Myriam Roustan.
Oh, elle doit être bien, cette fille-là. Hein.
Merci pour ce reportage, Sandrine. Toutes les infos sur ces stages sur la page de l'émission. Il y a de la ressource dans ce pays, Daniel Cohen.
Oui, absolument. Tout à fait.
Le travail, ça reste quand même le défi numéro un dans cette société
travail,
en évolution.
Là, ce qui est formidable dans ce stage, c'est que ça va au-delà du travail. C'est vraiment son identité personnelle, sociale qui est très importante. Donc effectivement, jouer un rôle, c'est la manière aussi de comprendre ce qu'on est, reprendre confiance en soi. C'est beaucoup plus qu'un simplement une
ça
préparation
aide
à un stage d'embauche. C'est comprendre les jeux sociaux. Et encore une fois, les personnes en difficulté dans le monde d'aujourd'hui, ils n'ont plus la possibilité d'une interaction sociale qui leur permette de comprendre au regard des autres qui ils sont, parce qu'il n'y a plus d'entreprises, elles sont déliées, elles sont délitées. Ça nous ramène à la discussion qu'on a eue sur Uber. Donc, retrouver des lieux de socialisation, même virtuels, même fictifs, comme celle du théâtre, c'est très très important. Et donc, oui, très bien.
En attendant que notre société soit capable de donner du travail à tout le monde, ou en tout cas un revenu, ça c'est encore un autre débat. Le revenu universel, on aura peut-être l'occasion d'en parler un autre jour avec vous, Daniel Cohen. Un grand merci. Je rappelle le titre de votre livre, Il faut dire que les temps ont changé, chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète. De toute façon, vous restez avec nous pour le téléphone sonne, qui reviendra sur ce qui a fait l'actualité depuis 10 jours, la question de l'environnement posée avec fracas par la démission de Nicolas Hulot. On s'interrogera notamment sur notre modèle économique. Est-il compatible avec les impératifs de l'écologie, avec l'avenir de la planète? On sera avec Laurence Tubiana, qui a été la négociatrice en chef des accords de Paris sur le climat. Appelez-nous au 01 45 24 7000. Le standard est évidemment toujours à votre disposition. Pour l'instant, il est 19h sur France Inter.